Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invitée politique ce matin est Marion Gorgiard. Elle est co-référente des relations unitaires des insoumis et insoumises des Côtes d'Armor. Elle a fait la route depuis Saint-Brieuc pour être avec nous en direct en studio. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon. Merci pour l'invitation.
Alors on va parler de politique en commençant par un volet social important et deux lois importantes qui ont été discutées à l'Assemblée nationale. D'abord cette loi sur la fin de vie, j'allais presque dire une double loi sur la fin de vie et sur l'accompagnement de la fin de vie avec les soins palliatifs. Est-ce que c'était important qu'aujourd'hui la France se dote de cette loi ?
Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années. On a enfin pu convaincre, parce que je crois savoir quand même, même si je n'en ai vu qu'une partie, que les débats à l'Assemblée ont été évidemment très nourris, mais aussi particulièrement sereins. On peut quand même le dire, le préciser, parce que tout le monde est concerné humainement par cette question, et ça pose la question de notre existence, ça pose la question de comment on va jusqu'au bout et dans quelles conditions on vit ces derniers jours. Et dans le cas de ces soins palliatifs, ces droits à mourir, les députés, je pense, ont pris la mesure tous, même si certains sont en désaccord, évidemment, mais ont pris vraiment la mesure de ce que ça signifiait pour les gens. On a quand même un taux très très fort de la société française qui était pour ce droit à mourir dans la dignité. C'était le vrai sujet. Et concernant l'équilibre du texte, a priori, il a quand même tous toutes les garanties d'être équilibré, parce que on ne laisse pas aux seuls soins du médecin ou de la famille ou d'un patient qui ne serait pas tout à fait conscient de ce qu'il demande un équilibre pour que ça, voilà, qu'on n'en arrive pas
à des dérives finalement.
Toutes les barrières sont mises pour qu'il n'y ait pas de dérive, qu'on ne soit pas dans l'euthanasie, qu'on ne soit pas dans quelqu'un qui aurait pourquoi pas des soucis neurologique ou psychiatrique,
qui pourrait pas s'exprimer.
Pour l'accompagnement, pour aussi garantir aux médecins accompagnant le fait d'être en droit de le faire sans avoir à soulager un malade de prendre une décision lui-même qui passe sous les fourches caudines de la justice en ce moment. Donc c'était vraiment très très important.
Avec une crainte, alors justement les craintes de dérive, elles ont été exprimées, il y a eu des débats plutôt sereins, plutôt dignes effectivement à l'Assemblée nationale, plutôt très transpartisans aussi, c'est assez rare dans l'hémicycle que l'on voit cette possibilité de discuter un texte dans le calme, autour d'un sujet très important. Il y a quand même eu une inquiétude d'une part de la société en disant on légalise finalement l'euthanasie, là aussi il faut rassurer aujourd'hui.
Ah, complètement, et puis c'était faux. Il y a un droit opposable aux soins palliatifs, si tant est que. Il ne s'agit pas d'euthanasier quelqu'un qui souffrirait et qui pourrait plus s'exprimer. Tout doit être fait en concertation, y compris donc surtout par la personne elle-même. Et donc la souffrance ne peut pas être quelque chose de... On ne peut pas laisser les gens avec leur souffrance jusqu'à la fin de leur jour quand ils le réclament ou qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir le réclamer. La vie, ce n'est pas... vivre, c'est plein de paramètres. On ne peut pas, on ne vit pas quand on souffre, uniquement quand on n'est que souffrance. Donc, il ne s'agit pas d'un blanc-seing à l'euthanasie, loin de là. Et il faut effectivement maintenant faire tout un travail d'explication. Je trouve que c'est important pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit.
Le choix reste possible, c'est ça qui est important
de dire aussi. Le choix reste possible et c'est c'était vraiment demandé, encore une fois, depuis très très longtemps.
Autre loi, alors qui est dans un autre domaine, puisqu'on a beaucoup aussi parlé d'agriculture à l'Assemblée nationale ces derniers jours, alors avec, pour le coup, des débats qui ont été un peu plus, j'allais dire, forts. Débats autour de cette loi Duplomb qui finalement ne sera pas discutée, puisque voilà, il n'y a pas eu... j'allais dire consensus. On a entendu les insoumis s'insurger en disant voilà, c'est une forme de 49-3 déguisée. Qu'en est-il?
Alors, il n'y a pas eu que les insoumis, hein, s'insurger d'ailleurs.
voilà, on les a entendus les insoumis, mais c'est vrai qu'à gauche, oui, majoritairement, ou dans les rangs écologistes, on a entendu une forme de colère.
Ben, complètement. Il s'agit en fait d'une proposition de loi qui sape quand même un paquet de choses qui avaient été légèrement en progrès, parce que bon, les progrès, ils sont extrêmement lents en termes d'agriculture. Et qui remet en question ces avancées et qui, voire, recule par rapport à ce qui avait été proposé. Alors, je veux dire par là que on réintroduit de façon, dans cette proposition de loi, les néonicotinoïdes qui étaient interdits. On permet au ministère de l'Agriculture d'avoir un droit de regard sur l'ANSES, donc l'agence de pour la sécurité de l'alimentation. On revient sur des réglementations qui géraient la diffusion des pesticides dans les champs, et tout ça effectivement avec en derrière, on le sait très bien, la FNSEA, le syndicat qui est encore majoritaire, mais à cette allure-là, je pense pas qu'il va le rester de nombreuses années, parce que c'est juste pas possible, et des élus qui préserver un électorat d'agriculteurs vont voter sur cette motion de rejet. Alors 49-3, j'explique, c'est simplement parce que, enfin simplement, c'est une sorte de tour de passe-passe. Duplomb, donc ce sénateur, a lui-même proposé une motion de rejet qui, si elle était acceptée, faisait que son projet de loi passait directement en huis clos pour être voté. Alors ce n'est pas un 49-3, mais ça y ressemble étrangement, étant donné que le débat ne peut plus avoir lieu à l'Assemblée. Donc on court-circuite complètement l'Assemblée représentative et on permet de revenir en arrière en mettant en danger donc la santé des citoyens. Nombreuses sont les affaires que l'on peut constater, notamment l'Association de défense des victimes des pesticides, qui se trouve en Ille-et-Vilaine, s'insurge, étant donné qu'elle voit arriver de plus en plus de victimes qui ont énormément de mal. Alors, évidemment, gravement malades, on passe des lymphomes, des cancers, donc la maladie de Parkinson, des choses qui sont quasiment avérées ou complètement avérées dues aux pesticides, n'arrivent même pas à faire valoir leur état auprès de leur employeur ou de leur mutuelle, ou en tout cas devant un tribunal. C'est extrêmement long. Et pour eux, si on parlait de la fin de vie, il y a des fois des cas qui sont directement liés sur ces deux projets de loi, propositions de loi. Donc, comment dire? Si on continue comme ça, on va vraiment dans le mur. On se sape, d'une part, la biodiversité, les néonicotinoïdes, donc, sont tueurs d'abeilles, on ne va pas le dire autrement. Et les agriculteurs, les mégabassines, j'oubliais d'en parler, les mégabassines, c'est-à-dire le droit à l'accès à l'eau tous azimuts pour pomper dans les nappes phréatiques. Et donc, au bout du bout, on se retrouve avec une agro-industrie qui a les coudées franches, qui va encore continuer sous couvert de simplification administrative,
Non, parce que c'était ça qui était demandé au départ.
Voilà. La simplification, alors, j'entends que on peut tout à fait entendre hein, que de plus en plus que les agriculteurs sont amenés de plus en plus à remplir des papiers, à respecter les normes imposées, etc. Mais enfin, malgré tout, quand on parle des coûts induits de ce qui est en train de se passer. Alors, on va parler de la santé, évidemment, ça coûte extrêmement cher, de la pollution, donc de l'eau, du fait que c'est l'agro-industrie qui prend le dessus sur un marché mondial et qui empêche, on va dire, le fameux souverainisme en matière d'alimentation qui est mis en avant, mais non, pas du tout. C'est une course à l'échalote pour produire toujours plus dans n'importe quelle condition, en tout cas les pires qui soient, et inonder le marché alimentaire de produits qui ne vont pas respecter notre santé. Donc c'est vraiment un très gros sujet.
Alors, double sujet, parce qu'on entend aussi des agriculteurs bio, de la filière bio, qui, voilà, qui sont un petit peu dépités parce qu'ils s'attendaient à un texte différent finalement, ou en tout cas à une préservation de leur activité.
Mais complètement, on parlait, quand il y a eu ces mobilisations l'an dernier des paysans, il y avait à la fois des paysans de gros élevages, mais aussi des paysans de la Confédération paysanne, pour ne citer qu'elle, qui réclamaient vraiment l'augmentation de leurs revenus par rapport à leurs produits. C'est bien ça le sujet, ce sont les revenus des paysans. Je pense que si on met sur la table, encore une fois, si on met le revenu paysan d'un côté et le fait de pouvoir utiliser des pesticides et néonicotides.
Néonicotinoïdes, c'est dur à dire.
C'est assez dur à dire. Il n'y a pas photo. C'est vraiment, tous les éleveurs veulent, les éleveurs, les agriculteurs, les paysans, parce que veulent avoir les moyens de leur existence. Et malgré tout, quand on voit en plus, concernant tout ce qui va toucher à l'élevage lui-même, encore une fois, je vais le redire ici, mais la Bretagne, pour ne parler que d'elle, n'a pas vocation à nourrir l'entièreté du pays et plutôt même le monde. Donc on concentre ici, nous, des élevages qui polluent l'eau. On va reparler des algues vertes. Et on se retrouve avec un préfet qui qui dit qu'on va passer maintenant à quelque chose de plus coercitif concernant le respect des éleveurs pour ne pas polluer notre littoral. Et en fait, ces deux choses-là se retrouvent en contradiction. Donc cette loi était tellement importante que notre députée Muriel Vrault est partie à Paris lundi, toutes affaires cessantes, pour être dans l'Assemblée et pouvoir le voter. Et tout le travail qui est fait d'explication sur cette loi, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir une partie des échanges, ou en tout cas ce qui est publié sur les réseaux.
On a entendu, là aussi, une grande part de la gauche, LFI en tête, s'insurger contre, finalement, un contournement de la démocratie, un contournement du parlementarisme. Voilà, je vais y arriver aussi. Est-ce que là, finalement, on est rentré dans un système qui permet, finalement, de faire passer un texte sans que les députés puissent s'exprimer, puissent apporter des amendements à ce texte, avec cette fameuse notion de contournement du texte, hein.
Alors, là, on le redécouvre. Apparemment, il a déjà eu lieu une fois. Et je crains, effectivement, on peut craindre que ce type de motion de rejet ne soit réutilisé, puisqu'il permet, effectivement, encore une fois, sans que le Premier ministre n'ait besoin de brandir un 49-3, un débat à huis clos, c'est-à-dire, on le répète ici, 7 députés et 7 sénateurs.
Finalement, en commission paritaire.
Une commission paritaire, mais selon la couleur politique, évidemment, de ces élus, nous pouvons craindre le résultat. Et donc, oui, c'est un vrai sujet démocratique, Mais comme le sont toutes les séquences qu'on a traversées ces dernières années, on est passé d'un nombre incalculable de 49-3 sur des lois comme celui de la loi retraite avec Elisabeth Borne, le contournement du vote des Français lors des élections législatives de 2024 qu'avait pourtant souhaité Emmanuel Macron à la dissolution, en provoquant la dissolution. Et puis maintenant, on en arrive à ça. Comment dire ? Je crois que les Français doivent vraiment se rendre compte de ce qui se passe. C'est que tout est fait pour n'aller que dans un sens, celui du libéralisme le plus effréné, et que si certains pensent que c'est ça qu'il faut faire, il faut défendre la libre entreprise, etc., etc., et qu'ils se moquent pour le moment que les plus précaires le subissent, il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Ça tombe par tranches entières. Donc ce qu'on va considérer maintenant comme les classes moyennes vont être, elles le sont déjà d'ailleurs, concernant... je pars un petit peu tous azimuts, mais concernant les transports, concernant leurs conditions de travail, concernant leur santé, l'éloignement des services publics, tout ça est fait par tranche. Là, on va parler de TVA sociale.
Voilà, alors justement, j'allais y venir, vous m'avez devancé, mais c'est très bien, puisque le Premier ministre s'est exprimé en disant, voilà, la situation budgétaire de la France est catastrophique, là, on veut bien le croire sur parole, mais il va falloir faire des efforts, et là, on parle d'une TVA sociale, donc finalement, un impôt supplémentaire.
Bien sûr. La TVA sociale. On a en fait déjà, c'est notre député David Guiraud qui avait mis ça vraiment de façon très claire en avant. On a en fait un gouvernement qui pompe dans les cotisations sociales des Français pour compenser les impôts qu'ils ont supprimés par ailleurs. Alors, ces impôts ont été supprimés en laissant croire aux Français qu'ils allaient récupérer du pouvoir d'achat. Mais en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'on prend, mais on supprime ailleurs. Donc, cette TVA sociale, ah bah oui, les caisses sont vides. Et pourquoi elles sont vides ? Parce qu'on a supprimé des recettes. Donc, on bascule nos cotisations sociales, qui sont notre salaire différé, on les bascule vers des compensations, notamment celles faites aux grosses entreprises. Donc, on se retrouve avec des multinationales qui, elles, ne payent pas d'impôts, des très riches qui, eux, ne payent pas d'impôts, voire très très peu, sur un petit patrimoine, mais jamais sur leurs dividendes, et en tout cas celles des gros actionnaires. Et on va faire payer à tout un chacun, y compris donc les plus précaires, les plus pauvres d'entre nous, on va faire payer la TVA, une TVA plus élevée. On ne parle même pas des petites entreprises qui, elles, en fait, se retrouvent à payer le prix fort et qu'on défend, évidemment. Et donc, cette TVA sociale, ça va être prendre à tout le monde, ce qui est, en fait, donné aux plus riches d'entre nous. Voilà, donc les 0,1%.
On reproche souvent à la France insoumise de taper sur les grands patrons en disant il faut partager les richesses, finalement, avec le risque, si les grands patrons se fâchent et partent, allez, pourquoi pas outre-Atlantique, allez, je me fais un peu provocateur, comment faire dans ce cas-là ?
Alors bon, déjà, je reviens sur le terme taper parce qu'on leur tape pas dessus.
Voilà, je me déguise.
Sincèrement,
évidemment.
C'est les pauvres, on va pas les plaindre. Nous avons... voilà, ne serait-ce que des Bernard Arnault, qui ont vu augmenter leur richesse d'une façon mais complètement scandaleuse, avec encore une fois donc des aides de l'État. Alors on passe les flat tax, les CICE, l'impôt sur les grandes fortunes, l'ISF qui a été supprimé, etc. Et nous, on ne demande dans nos propositions de loi, on ne demande, d'ailleurs c'était passé en commission, mais c'est pas passé à l'Assemblée, on demande donc à ce qu'il soit taxé seulement pour une partie infime
L'effort national, finalement.
Mais c'est même pas un effort, c'est qu'ils payent leur juste part. Alors, on ne parle même pas d'évasion fiscale, qui s'estime, puisque bon, il y a des choses qu'il faudrait repréciser, mais qui s'estime au bas mot à 80 à 100 milliards par an, chose qui est dénoncée par Attac ou par Oxfam ou par... voilà. Donc, on ne demande juste que la répartition des impôts soit... en pourcentage, la même pour tout le monde. Et nous, dans notre programme, donc 14 tranches d'impôts pour ce qui est vraiment permettrait, en dessous de 4 000 euros de revenus, de ne pas en payer plus, voire moins. Mmh. Hein. Donc, c'est une progressivité de l'impôt. Quant à nos cotisations sociales, je le répète ici, les cotisations sociales, c'est du salaire différé. C'est ce qui paye nos retraites. On pourrait en reparler aussi, c'est ce qui paye nos retraites, c'est ce qui paye notre maladie, et tout ça s'effondre. On voit l'âge de la retraite reculer, et on voit nos services de santé à l'os.
Il y a une grande inquiétude d'ailleurs des Français aujourd'hui, par rapport à la santé, par le fait de ne pas trouver de médecin à proximité, ou de ne pas pouvoir être reçu rapidement dans les services d'urgence qui sont saturés.
Oui, complètement. Alors, on doit saluer quand même la maison santé qui vient d'ouvrir sur Saint-Brieuc-Trégueux. Mais c'est juste, ça ne peut qu'absorber une partie de la population qui peut ainsi éviter de se retrouver en cas d'extrême urgence et encombrer encore les services d'urgence de l'hôpital Le Foll. Notre député Muriel donc a toujours soutenu les mobilisations syndicales. Et nous avons soutenu également tous les maires qui étaient co-signataires d'une demande sur ce sujet, sur la fermeture de nos services donc hospitaliers publics, soyons précis. On a fait les mobilisations à Carhaix, à Guingamp, on s'est retrouvés devant l'ARS.
On voit aussi que le Centre-Bretagne est très touché.
Le Centre-Bretagne
est extrêmement
touché.
Alors qu'il a déjà d'autres difficultés.
Voilà, bah, l'hôpital de Pontivy, enfin bon. Donc ça, par contre, c'est passé. Ce moratoire est passé sur la fermeture des maternités. Il était annoncé que en dessous de 300 accouchements par an, on estime qu'un service de maternité n'est plus viable, ou en tout cas ne propose pas une sécurité suffisante. C'est un argument assez fallacieux. Quand bien même il peut n'y avoir que 300 accouchements par an, c'est autant d'accouchements qui ne se passent pas à 60 km de là, et on va en voir de plus en plus. Là, on a parlé de cas de mortalité infantile qui est vraiment en grave hausse
en France. Voilà, qui est en hausse en fait.
Voilà,
en France,
ouais. c'est dramatique. Mmh. Donc on va se retrouver, ce que je disais, de plus en plus avec des accouchements sur la route, et encore, on a la chance si on tombe sur une caserne des pompiers au passage. Bon, c'est hallucinant. C'est hallucinant.
Dans un autre domaine, vous parliez tout à l'heure des grands décideurs, des grandes entreprises et tout. On a vu la France insoumise lancer une mobilisation, alors pas seulement beaucoup de forces de gauche, contre l'Empire Bolloré. Alors, il y a eu beaucoup de critiques. Fallait-il le faire? Fallait-il ne pas le faire? D'aucuns diront que, voilà, Bolloré crée des emplois, finalement, en Bretagne et dans le Finistère. Voilà, il faut attaquer ces empires ou faut essayer de discuter avec eux?
Bah, qu'est-ce qui fait ces empires? Il y a pas mal de paramètres. Monsieur Bolloré, en fait, son empire se fonde sur une exploitation qu'il a faite en Afrique, dans des conditions de travail déplorables, se fait sur les médias, dont il a pris la main une bonne partie d'entre elles, dont la chaîne tant décriée CNews, une chaîne qui vraiment qui promeut complètement l'extrême droite, et il défend ses intérêts donc idéologiques via ses médias qui sont à perte, hein. Faut le dire, c'est beaucoup d'argent, mais ça c'est la main mise sur l'opinion publique, et donc la création d'emplois, ben oui. Alors on a pu voir dans les pages de West France, on les a choisis, hein, des salariés contents de leurs conditions de travail, etc. Soit. En attendant, vouloir prendre la main et concentration des pouvoirs sur toute une filière et ces médias pour installer, on va dire, le clivage de la société, les idées de l'extrême droite, voire fasciste, je trouve ça extrêmement dangereux et il faut revenir sur cet empire. Il faut vraiment y revenir. On ne peut pas laisser les petites doigts être mangés par les moyennes, être mangés par les grosses et ne plus se retrouver qu'avec une personne qui détient toutes les manettes d'une filière. Donc c'était à dénoncer et donc via beaucoup d'organismes, hein, dont les soulèvements de la terre, mais aussi Attac, ont décidé de mettre l'accent sur cette mainmise de Bolloré, cet empire Bolloré. Et quoi qu'en pensent certains, les esprits chagrins, il a été fait une sorte de tribune pour réhabiliter, on va dire, ce créateur d'emplois. C'est toujours l'emploi qu'on nous met à côté pour dire « Ah bah oui, mais ça crée des emplois ». On se fout complètement de savoir dans quelles conditions, qu'est-ce que ça implique pour la planète, parce qu'il s'agit aussi et presque surtout de ça, et nos conditions d'existence pour les années à venir.
Le temps passe très vite, Marion Gorgière. J'aurais voulu vous entendre aussi sur les municipales, parce que voilà un enjeu qui arrive très vite, finalement, 2026 et demain. Voilà, mon petit doigt me dit que déjà, il y a beaucoup d'agitation et il y a beaucoup de préparation, en tout cas à gauche. On sait que LFI n'est pas rentré dans la coalition de gauche, par exemple, ici, dans les Côtes d'Armor. Est-ce que demain, il va falloir néanmoins faire une union ou est-ce qu'on va rester sur, j'allais dire, le schéma qui a prévalu, par exemple, pour les législatives?
Alors, d'une part, donc, pour cette coalition remonte aux élections régionales et cantonales de 2021. Et je ne vais pas revenir sur les détails, voilà, c'était un peu mis devant le fait accompli de certaines choses et... Et évidemment, nous ne pouvions pas en être d'accord. Ce qui s'est passé en 2020, à la France Insoumise, nous avions fortement participé à une assemblée populaire, c'était nommé assemblée populaire, donc une liste citoyenne qui avait fait 8,5% au premier tour en 2020. Et donc sur cette base, c'était une très belle campagne, et sur cette base programmatique, et étant donné qu'effectivement les Insoumis, c'est dit nationalement, ont de toute façon vocation à s'implanter dans les instances plus localement, eh bien nous avions, avec des membres de cette assemblée populaire de 2020, annoncé notre volonté fin janvier de faire une liste commune pour 2026. Entendons-nous bien, sur une base le plus possible de rupture par rapport à ce qui se fait, alors je parle de façon générale, pas de ce qui se fait à Saint-Brieuc, mais enfin pour faire barrage donc à la droite et à l'extrême droite et se donner toutes les chances donc de les reléguer, comme ça a été le cas par exemple pour l'extrême droite en 2020. Il n'y a aucun élu d'extrême droite et nous en sommes très satisfaits, et donc de pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Ceci étant dit, ce n'est pas c'est pas parce qu'il y a volonté que les choses sont automatiques, mmh. Et que de toute façon nous notre fond programmatique se travaille jusqu'à la rentrée. Nous avions de bonnes bases. Nous avons vu avec plaisir des choses qui avaient avancé. Mmh. Toutefois, nous pensons qu'il faut encore les pousser. Donc, c'est sur ça qu'on va pouvoir discuter et je l'espère de façon très sereine et concertée dans les prochaines semaines.
Voilà. Évidemment, la campagne débute à peine
pas encore une campagne.
Voilà,
chacun se positionne.
Voilà.
Mais nous tenons à certains paramètres et la France Insoumise ici sur le territoire, avec les résultats qui ont été faits sur Saint-Brieuc aux dernières législatives, a vocation à apparaître.
Voilà, et vous reviendrez évidemment au micro de la matinale, Marion Gorgiard, co-référente des relations unitaires des insoumises et insoumis des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin. Merci infiniment, très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.